c'est l'heure du JT.
Il est pratiquement 19h, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour passer ce week-end en votre compagnie.
Putain,
ils veulent avoir leurs examens en fin d'année, c'est mieux de les réviser. Parce qu'il n'y aura pas d'examen en chocolat. Non.
Pension de retraite, pourquoi cette faible revalorisation de la part du gouvernement ?
Fausses offres d'emploi pullulent sur le réseau de Pôle emploi.
Une question de santé publique et donc économique qui intéresse les entreprises.
La procédure fait intervenir un huissier qui vient notifier l'expulsion avant démolition.
Oui ou non, interdire le burkini, ce maillot
connerie cette fois-ci, c'est sûr, je l'éteins là, je l'éteins la télé, même je l'éteins à tout jamais, tu vas voir ce qu'elle va voir, c'est qui.
Oh, René, tous les vendredis, c'est pareil, une télé explosée, hein. La plus rebelle des radios, la plus rebelle des radios. Wow.
Sur les ondes de Radio Canu, c'est l'heure du Canu Info du vendredi, il est 19h02 et dites-nous, qu'est-ce qu'on va entendre pendant une heure comme information ce soir ?
Eh bien, on va commencer par revenir sur les contrôles au faciès.
Mais ensuite, on va vous présenter les violences policières.
Et puis, on vous parlera d'un entretien avec Rami, enfin, on vous diffusera un entretien avec Rami, un lycéen de Vénissieux victime d'un tir de flashball.
On continuera notre petite balade en compagnie de la police et on fera cette fin de balade avec Mathieu Rigouste en gare du Nord de Paris. On continuera avec les flics, cette fois-ci à la frontière franco-italienne.
Et on vous dira, on annoncera ensuite que les flics vont maintenant gagner plus de thunes.
Ah bon? Oui. Parce que moi je pensais qu'on allait parler du fait que les flics ils arrêtaient des maraudeurs et des maraudeuses à la frontière franco-italienne.
Oui mais ça on l'a déjà dit mon
ami. Oh là là, j'écoute rien, pardon. Et bah alors ensuite on va parler des gilets jaunes, je crois bien, qui coûtent très cher à Vinci et qui attaquent encore et toujours la police, la pauvre police.
Et puis ensuite, on vous parlera de la Safe City, c'est-à-dire d'un nouvel avatar de la Smart City. On vous expliquera tout ça.
Et on partira à l'international, où rien ne va plus comme d'habitude, puisqu'on parlera des projets d'école sans parti dans le Brésil de Bolsonaro. On décryptera ça. Et puis, on terminera avec un spécialiste qui a invité un autre spécialiste et qui nous parlera de la montée de l'extrême droite, encore elle, en Espagne. Voilà, et avant de lancer ce formidable Canu Info, juste une petite brève pour rappeler qu'hier, deux écoles occupées à Vaux-en-Velin, une 16e fois l'école justement et le gymnase, enfin deux écoles étaient occupées pour une 16e soirée. Ces occupations ont permis de loger 46 enfants qui autrement dormiraient dehors avec leurs parents. Voilà, donc on a eu la semaine dernière une parent d'élève qui nous expliquait ceci. La lutte continue et la mairie de Vaux-en-Velin ainsi que beaucoup de mairies du Grand Lyon continuent de faire la sourde oreille.
Canu Info.
Et dis pas de mal des cochons.
Mais ça pue un cochon.
Violence policière. Canu Info.
La police mutile, la police assassine. Qu'est-ce que des drogues? Nous sommes service. La police mutile.
Violence policière. Et on ouvre un dossier autour des violences policières. Et on va commencer par parler du contrôle au faciès, parce que derrière tout ce qu'il peut y avoir d'horreur dans les mutilations et dans les morts causées par la police, il y a une idéologie policière et il y a des pratiques quotidiennes bien moins visibles, mais tout aussi scandaleuses. Dans Le Monde, on a lu un article qui rappelait que 3 lycéens qui avaient assigné l'État en justice ont été déboutés. L'affaire, elle a commencé en mars 2007, une sortie scolaire. À la sortie du train, 3 jeunes de Seine-Saint-Denis sont contrôlés par la police en gare du Nord, à Paris. À l'époque, l'affaire est médiatisée avec le soutien de la prof des jeunes et leurs camarades qui avaient rédigé des témoignages. Et aussi du fait que le contrôle, il a été considéré comme super humiliant pour les jeunes qui se font pour une fois en fait contrôler devant toute une classe. C'est pas un énième contrôle au faciès qui se fait dans un coin comme ça où les jeunes sont isolés. C'est toute une classe qui descend d'un train et 3 jeunes qui vont se faire humilier par des flics à la descente du train. Les jeunes, ils avaient à l'époque assigné l'État, donc avec le soutien de leurs profs, de leurs camarades et même du défenseur des droits. L'intérêt légal de tout ça, c'était que justement ce contrôle au faciès, il est très commun, il est très connu des jeunes, notamment des jeunes de quartier, il a été prouvé sociologiquement, mais en fait, judiciairement, il est très rarement reconnu, il n'y a jamais eu de condamnation pour contrôle au faciès. Du coup, là, l'idée d'assigner l'État, c'était que si l'État y sortait condamné, il y aurait eu un renversement dans la jurisprudence, c'était plus aux gens de prouver que l'État justifier le contrôle au faciès, mais ça aurait été à l'État, suite à cette jurisprudence-là, de prouver que les contrôles n'étaient pas discriminatoires. Mais l'État peut sortir rassuré, bien sûr, puisque la justice a jugé que ce contrôle-là, donc de mars 2017, n'était pas discriminatoire. Ils ont retenu l'argument des flics qui disaient qu'ils ont contrôlé ces 3 jeunes-là, non pas parce que c'était des jeunes de quartier, non pas parce qu'ils étaient maghrébins, mais parce qu'ils avaient des gros sacs en sortant d'un train. Et oui, avoir des gros sacs quand on prend le train, voilà la raison d'un contrôle. Et on va conclure cette petite brève par les propos de l'avocat qui dit que c'est une décision scandaleuse qui montre que les magistrats ne comprennent pas les problèmes d'égalité et de discrimination. Et surtout par les propos de Mamadou Camara, l'un des 3 plaignants, qui à la sortie du tribunal a exprimé sa déception en disant qu'ils ne veulent pas voir la triste réalité en face. Et qu'il estime aussi que le message envoyé était clair, le fait de ne pas reconnaître l'assignation de l'État et d'être débouté pour ces jeunes-là. Cela veut dire, restez dans vos quartiers, vous avez des droits, mais ne les utilisez pas. À savoir que ces 3 jeunes-là ont fait appel du coup de la décision du tribunal.
Et on enchaîne maintenant avec l'entretien de Rami, qui est le lycéen grièvement blessé à l'œil lors d'une manifestation lycéenne qui a eu lieu à Vénissieux. Et il sera donc entendu par la police des polices lundi. Il a été touché par un tir de flashball donc à l'œil. Une plainte a été déposée pour violence volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique ayant entraîné une infirmité permanente. On l'écoute.
Un enregistrement qu'on a pu au préalable entendre sur France 3.
J'étais avec deux amis à moi. On était en train de monter la pente à Jacques Brel pour entrer chez nous. On voit la foule en haut et la police qui jette des bombes lacrymogènes. Puis on voit 2 coups de flashball passer à côté de nous. Du coup, on se met derrière une voiture pour pas qu'ils nous touchent. Du coup, après, on se remet à marcher. Et je tourne ma tête et je reçois une balle de flashball. Du coup, après, on m'a emmené à l'hôpital et je me suis fait opérer, etc., etc.
Du coup, tu as vu arriver ce projectile? Est-ce que tu sais précisément ce que c'est?
Bah oui, c'est un flashball, j'ai aucun doute. Même la trace des médecins, ils m'ont dit que c'est un flashball.
Parce que t'as la pommette...
Ouais, c'est entouré comme ça.
ton œil du coup? Qu'est-ce qui t'en dit?
Mon œil, il y a des plaies qui n'ont pas réussi à refermer. Je vais peut-être perdre la vue. Et d'ici un mois, je vais savoir normalement. J'espère récupérer la vue.
T'es dans quel état d'esprit du coup aujourd'hui?
Je suis un peu fatigué, un peu traumatisé encore des faits, mais sinon ça va.
Comment se fait-il que t'aies été visé par ce tir de flashball à ton avis?
Non, c'est rien. Peut-être qu'ils m'ont pris pour un casseur. Mais sinon, j'en sais rien.
Tu faisais partie des manifestants de cette manifestation lycéenne? Ça faisait plusieurs jours que ça commençait un peu partout à Lyon à s'exprimer, les lycéens, à avoir envie de manifester. Est-ce que toi, tu faisais partie de cette manifestation?
Non, je faisais même pas partie de la manifestation. La foule qui manifestait, elle était loin de nous. Nous, on était à part. Je pense que c'est visé, c'est fait exprès.
Mais vous étiez menaçant avec les policiers? Pourquoi ils vous auraient visé?
Même pas. Je sais même pas.
Du coup, aujourd'hui, ça te fait mal encore? Comment?
Ouais, un petit peu, ça fait mal encore. Mais maintenir le coup.
Toi, tu veux savoir quoi? Dans l'enquête, en fait, vous avez déposé plainte auprès d'un avocat? Oui. Qu'est-ce que tu as envie de savoir?
Déjà, je veux savoir qui c'est. Et qui paye pour ses actes, c'est tout. C'est parce que normalement, on n'a pas le droit. Normalement, le flashball, c'est une arme interdite en Europe. Il n'y a qu'en France qu'ils l'utilisent. Je vois pas pourquoi. C'est dangereux. Vous voyez par vous-même.
On continue à avancer côte à côte avec les policiers ou contre les policiers, en tout cas d'essayer de comprendre leurs pratiques, et on continue sur ces chemins-là avec un article qui est paru sur Mediapart de Mathieu Régouste qui s'appelle « Magouille, nazisme et violence » et c'est la rencontre entre Mathieu Régouste et un ancien policier repenti. Donc sur Mediapart, on peut trouver cet article où Mathieu Régouste, il s'entretient avec cet ancien flic qui est de la Garde du Nord, où ont été contrôlés les jeunes dont on parlait avant cet entretien, les jeunes qui ont assigné l'État. Ce flic, il a quitté son taf, et c'était un taf qu'il décrit comme un lieu où les références à Hitler, l'ultravirilisme, l'ennui, les magouilles et les violences étaient quotidiens. Il est entré dans la police alors qu'il était encore, en fait, après ses études. C'était un jeune de classe moyenne, blanc, du coup, qui s'engage dans la police pour se rendre utile, ce flic. Il voulait se rendre utile parce qu'il a eu ça dans les reportages à la télé. La télé qui mystifie le rôle des policiers. C'est un jeune aussi qui a été motivé, ce qu'il raconte dans l'article, par des agressions qu'il a subies, et ses agresseurs étaient des blacks. Et Mathieu Régouste de souligner que le pouvoir policier attire des personnes désireuses de mettre en œuvre leur conception personnelle de la justice, c'est-à-dire une conception de la justice basée sur des ressentiments racistes, sexistes et de classe. Après cette entrée dans la police, il a suivi une formation, une sélection, on lui a fait couper ses cheveux. Il a fait du sport, il a appris à faire des interventions, il a fait du droit. Il a été classé, il a pu choisir son poste. Et la quasi-totalité de ses petits camarades, même les plus craignos, même les plus flemmards, même les plus racistes, ils ont aussi eu un poste. La première chose qu'il rencontre sur le terrain pendant ses stages, c'est l'ennui et le fait de se planquer chez les policiers. Ennui qui contraste avec des stages dans le JPN et les CRS qui lui donnent un petit peu le goût de l'action et de l'adrénaline. Et puis c'est ses premiers pas sur le terrain, en Gare du Nord, où il rencontre en premier lieu le racisme. Il est affecté du coup en Gare du Nord, une brigade qui décrit comme un peu spéciale, ambiance fasciste qui prônait le nazisme. Quelques-uns avaient une allégeance à Hitler et les autres étaient complices, sans avoir les mêmes mots, mais prenaient quand même bien plaisir à faire des insultes racistes. Une brigade, du coup, où au mieux les gens étaient apolitiques, ou se disaient comme tels, tout en balançant des insultes racistes, mais souvent véhiculaient des clichés d'extrême droite, votaient FN et le disaient ouvertement. On rappelle aussi dans l'article que 47% des policiers assument voter FN, ça c'était une enquête, un sondage de 2017. Mais la police en Gare du Nord et ailleurs, c'est pas que le racisme, c'est aussi le sexisme. Et donc ce policier repenti, il raconte qu'il a été confronté à un sexisme quotidien, un milieu où le virilisme est omniprésent. Ça s'exprime par exemple dans ses collègues qui prennent à la rigolade les dépôts de plaintes pour viol, ou ses collègues qui tentent d'extorquer des vidéos érotiques personnelles à une femme venue porter plainte contre son ex-compagnon qui la menaçait de publier ses vidéos. Une culture policière viriliste qui s'accommode des pratiques violentes et discriminatoires, mais surtout les légitime et les valorise. Comme ce jour où ses collègues y tabassent un gars à l'arrière du commissariat. Et puis non content de le tabasser et de lui péter les dents, et bah il filme ça et puis il regarde ça entre collègues avec fierté. Ou encore cet autre jour où, en marchant dans la gare du Nord, un de ses collègues crache sur un SDF pour impressionner les autres. Des logiques, du coup, comme ça, vraiment d'éclat, mais qui se retrouvent aussi dans les contrôles au quotidien. Car ce flic, Nicolas, qui est interviewé par Mathieu Régouste, décrit la satisfaction de ses collègues à user des violences contre les minorités noires ou arabes, ce sont ses mots. Mais aussi envers tous ceux qui n'avaient pas les codes bourgeois, qui portaient sur eux des signes de pauvreté. L'ex-policier précise que cela s'exprimait, alors, par des tons secs, des boutades à peine déguisées devant les personnes, et toujours en essayant de ne pas être ouvertement insultant. La majorité des personnes contrôlées étaient non blanches, dues au choix des policiers de terrain, mais aussi aux appels de radio qui les envoyaient pour les interventions. Et le policier de décrire que ce qui était ciblé, ce n'était pas forcément une couleur, mais plus une attitude où on sentait de la méfiance chez la personne. L'idée, là, c'est que les flics vont essayer de contrôler en priorité ceux qui se sentent en insécurité face à la police, et que du coup, ils vont renforcer les logiques discriminatoires qu'ils créent, puisque qui c'est qui va se sentir en insécurité ? C'est les gens qui ont déjà l'habitude de se faire contrôler au quotidien. C'est les gens qui ont déjà l'habitude de se prendre des insultes racistes et de se faire tabasser par les flics. Des pratiques de terrain, du coup, qui sont répandues chez les flics et qui sont légitimées dès la formation, puisque ce flic qui a quitté le terrain raconte en fait que la formation, qui d'un côté va dire aux flics « Ah, n'utilisez pas de techniques violentes, essayez de toujours utiliser une proportion dans l'usage de la force, etc. etc. » Ils leur apprennent en même temps comment il faut faire pour mettre les menottes sans que ça fasse mal. C'est-à-dire, on leur montre comment faire mal avec des menottes. On leur enseigne aussi des sports de combat, de percussion, de la boxe thaï, etc. tout en leur disant qu'il ne faut surtout pas mettre de coups. Et puis surtout, ce que raconte cet article, c'est une collusion entre la loi, les magistrats et les flics, avec une impudicité judiciaire. Et du coup, le flic raconte, là, le repenti, qu'un de ses collègues, un jour, à la gare du Nord, se fait insulter par un gamin de 14 ans. Qu'est-ce qu'il fait, ce collègue ? Il prend le gamin et lui fout un coup de genou dans le ventre. Le gamin s'écroule, et puis vient un procès. Et tout ça, ça a été filmé. Alors, lors du procès, la défense du flic, c'est de dire que c'est le gamin qui s'est jeté sur lui et lui a donné un coup de boule. Mais le magistrat, en fait, il voit les vidéos. Avant le procès, il ne dit rien du fait qu'il a vu que le collègue du flic du coup tabassait un gamin en première intention, et il va même jusqu'à féliciter le flic pour cette intervention. Ce flic décrit aussi les faux procès-verbaux, les rajouts d'insultes pour justifier les tabassages, la pratique courante de porter plainte pour outrage pour arrondir ses fins de mois. Nicolas, c'est le prénom de ce flic, a fini par quitter la police. Parce qu'il subissait des pressions, parce qu'il trouvait ça pas normal et qu'il le disait des fois à ses collègues. Aussi parce qu'il restait en lien avec des gens à l'extérieur de la police et que du coup il s'est jamais vraiment fait à ça et qu'il trouvait toujours ça bizarre. Et surtout, dans ce qu'il dit, parce qu'il sentait en lui monter l'agressivité, qu'il s'est vu participer à la violence, devenir à moitié fou et jeter des gens au sol, et avoir au quotidien des pensées racistes. Et Mathieu Régouste de conclure cet article en disant que ce ne sont pas des accidents, pas des dysfonctionnements, ce sont des productions d'une machinerie institutionnelle qui remplissent des fonctions rationnelles pour la reproduction d'une société inégalitaire, fonctions rationnelles qui peuvent aller jusqu'au meurtre policier, comme ce fut le cas pour Wassim.
Ce soir-là, mon frère a été interpellé dans son quartier d'enfance, La Gautière, parce qu'il aurait jeté une pierre sur une voiture de police. Une fois qu'il a été interpellé, selon les témoins, il y a eu un premier tabassage et ils l'ont rentré dans la voiture et il a été ramené au commissariat dans les environs de 3h30, 3h40 du matin. Et là, plutôt que de le ramener dans la salle des geôles, en fait, il a été déposé dans le couloir du commissariat et selon d'autres témoins, qui n'ont toujours pas été entendus par les juges d'instruction d'ailleurs, et ils ont été écartés par la police des polices. Selon d'autres témoins, mon frère a été tabassé dans le couloir du commissariat, un endroit où il n'y avait pas de caméra alors que la salle des geôles était vide, ce qui a provoqué qu'il tombe dans le coma, et 9 jours et demi plus tard, il est décédé. Je m'appelle Farid Eliamni, Je suis le frère de Wissam El Yamni, qui est décédé suite à une arrestation policière qui a eu lieu le 1er janvier 2012 à Clermont-Ferrand. En fait, on n'a pas été mis au courant de son arrestation. C'était le 1er janvier en fin de journée. On nous prévient en nous disant que mon frère, en fait, est à l'hôpital et dans le coma. Donc à ce moment-là, on pense qu'il est dans le coma éthylique. Le soir même, je vais à l'hôpital et là, je vois forcément qu'il a été tapé, je vois toutes les marques. Donc on va directement au commissariat qui est juste à côté pour demander ce qui s'est passé. On nous demande de repasser plus tard, quoi. Et le lendemain, lorsqu'on demande des explications, on est reçu de manière très agressive par une personne qui nous dit « Écoutez, l'individu avait une force extraordinaire, était sous cocaïne. » Et là, on comprend au même moment que la personne qui dit ça a quelque chose à se reprocher, quoi. Et puis à partir de là, mon frère est dans le coma pendant 9 jours et demi, il y a le quartier qui s'enflamme. Mais on avait encore les illusions d'une justice, en fait. Puisqu'à ce moment-là, un juge d'instruction est nommé, il y a des témoins, il y a un corps où il y a des marques de fracture, des marques de coups, c'est clair et net, quoi. Un pré-rapport d'autopsie va très rapidement être fait. Et comme souvent, les pré-rapports d'autopsie sont là pour calmer les gens. Donc dans le pré-rapport d'autopsie, on nous dit que mon frère serait mort d'un pliage. C'est-à-dire, en fait, nous faire croire que mon frère n'a pas été tabassé à mort, mais qu'en fait, il était tellement virulent que les policiers étaient obligés de faire une technique interdite et que c'était, d'une certaine manière, la faute à pas de chance. Ils voulaient faire passer un assassinat pour un homicide involontaire. Sauf que nous, on les lit, les rapports. Alors, comme souvent, pour enlever une part de responsabilité, on nous a sorti des excroissances osseuses. On nous a dit mon frère avait des excroissances osseuses au niveau de la tempe, ce qui aurait pu accélérer le manque de sang dans le cerveau, et donc le manque d'oxygène, et donc la mort. Nous, ce qui nous a étonné, c'est qu'en fait, le médecin légiste nous dit qu'il avait des excroissances, mais il oublie des fractures. Quand il était dans le coma, les médecins qui se sont occupés de lui, qui ont fait des radios, ont dit qu'il avait des fractures. Et dans le pré-rapport d'autopsie, on nous dit qu'il n'a pas de fracture. Quelqu'un qui voit des excroissances d'un millimètre, comment ça se fait qu'il ne voit pas des fractures? Enfin, il y a un truc qui ne va pas là-dedans, nous on le comprend très bien. Le fait de dire ça, rajouter à la cocaïne et la criminalisation, l'objectif n'était pas de dire la vérité, l'objectif c'était de calmer les gens. Et ça a été réussi. Ils ont gardé mon corps, enfin je dis gardé mon corps parce qu'en fait j'ai vécu aussi ça dans mon propre corps, quoi. Ils ont gardé le corps de mon frère jusqu'au mois de juin. Il faut nous expliquer comment ça se fait qu'un médecin légiste a besoin de garder un corps pendant 6 mois. Et nous on souffre, quoi. On n'a toujours pas enterré Wissam. Le médecin rend son rapport au mois de juin. Il dit qu'en fait, dans le dossier médical qu'il n'avait pas au mois de mars, il voit au niveau de l'électrocardiogramme qu'il y a quelque chose de bizarre. Il avait de la drogue. Il est certainement mort d'un problème de drogue qui a provoqué un problème cardiaque. Un médecin légiste change de version. Donc là, notre avocat va voir un expert cardiologue qui va lui dire il n'y a aucune anomalie cardiaque, aucune lésion cardiaque. Ce n'est pas possible qu'il soit mort d'un problème cardiaque. À partir de là, la justice a dit on va faire une contre-expertise qui va mettre plusieurs années à venir. Et donc on va voir le président des experts toxicologues qui dit une chose très simple, il est en dessous du seuil de positivité, c'est-à-dire que s'il avait été contrôlé au moment de l'interpellation au niveau d'un contrôle routier, il n'aurait même pas été positif. Et donc là on est en avril 2017, les causes de la mort doivent être réétudiées. Et à l'heure actuelle, donc on est en octobre 2018, on n'a toujours pas la réponse. Toujours pas le rapport du nouveau médecin légiste qui doit réétudier les causes de la mort. C'est beaucoup plus simple d'enterrer une affaire 10 ans après plutôt que de l'enterrer une semaine après. Plus le temps passe, plus les gens oublient et plus une injustice en fait est acceptable, quoi. Aujourd'hui, on est 7 ans et demi après. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on n'a pas la vérité médicale, qu'on a des témoins, les témoins du commissariat, qui sont écartés par la police des polices, Donc nous, on demande au juge d'instruction de simplement les entendre. On doit supplier un juge d'instruction d'entendre des témoins. Elle veut pas. La juge d'instruction ne veut pas entendre les témoins capitaux qui ont vu les policiers torturer mon frère. La séparation des pouvoirs, c'est pas vrai. Le juge d'instruction est simplement celui qui demande des choses. Mais ça reste toujours la police, la petite main qui va chercher et qui donne. C'est-à-dire qu'ils peuvent donner ce qu'ils veulent au juge d'instruction. Même quand il est honnête. Même quand il est honnête. La police des polices de Lyon, ils se disent, le corps est enterré, autopsie contre autopsie, on a enterré l'affaire, c'est bon. Sauf que nous, avant cela, en fait, on avait repéré qu'il y avait des preuves qui avaient été trafiquées. C'est-à-dire qu'ils ont pris en fait des photos à la fin de l'hospitalisation et ils les ont datées du 1er janvier. Pourquoi ? Pour faire croire en fait qu'il n'était pas tapé. Vous prenez un boxeur, 10 jours après, il aura moins de marques. Donc ça, on l'a signalé en disant voici les photos qu'ont pris les médecins le 2 janvier. Voici les photos que nous, on a pris le 3 janvier. Et vous voyez surtout que sur vos photos à vous, que la police présente, il a même plus de cheveux, plus de barbe. Et donc, le juge d'instruction nous justifie ça en disant le capitaine de la police judiciaire dit que c'est des photos du 1er janvier, donc c'est 10 photos du 1er janvier. Bah, vous avez bien compris que le juge d'instruction ne voulait pas reconnaître des preuves visuelles. Il ne voulait pas reconnaître que la police avait trafiqué des photos. Donc là, on va à la chambre d'instruction. Et la chambre d'instruction, bah, voit les photos et dit il y a quand même Anguille Souroche, encore une fois. Elle dit écoutez, c'est parole contre parole. Donc là, c'est des photos numériques. Donc on va dater l'ordinateur et l'appareil photo qui a été pris. Après cette demande-là, l'ordinateur et l'appareil photo sont formatés. Et donc, on ne peut pas savoir si les photos sont du 1er janvier ou pas du 1er janvier. Et donc, on en est à cela, où les témoins de la mise à mort ne sont pas entendus, où on n'a pas la vérité médicale, où les preuves photographiques sont trafiquées, où les preuves aussi audio, parce que les enregistrements radio, ont disparu et sont réapparus morcelés. Tout ce qui est possible de trafiquer, ils l'ont trafiqué et il n'y a eu personne qui a été un garde-fou là-dedans. Avant, je pensais que le monde était beau parce qu'il était bon avec moi. J'avais réussi à slalomer. J'ai fait une école d'ingénieur et j'ai fait aussi un master en management. Je me souviens, je regardais Capital à l'époque sur la 6 où je voyais des gens, des milliardaires et tout ça. Je me disais, mais wow, j'aimerais bien avoir tout ça. Avant l'histoire de mon frère, je pensais que le monde fonctionnait comme ça. Et c'est comme ça qu'il est justifié d'ailleurs. C'est-à-dire qu'en gros, si vous faites un effort, vous obtenez quelque chose. Mais en fait, pour la première fois de ma vie, je me suis aperçu que la porte ne pouvait pas s'ouvrir de mon côté. Il y avait quelqu'un qui disait « La meilleure manière de comprendre le monde, c'est de souffrir. » Et là, vous voyez tout ce que vous ne voyiez pas avant. Maintenant, je regarde TF1, je me dis « Mais c'est de la propagande !» C'est le paradoxe, en fait, de la situation. Le mal qui m'est arrivé m'a fait souffrir, mais cette souffrance-là m'a aussi désintoxiqué de pas mal de choses. À partir du moment où vous vivez des injustices, en fait, vous voyez une autre facette du monde. Et vous en arrivez même à vous dire, peut-être, dans la souffrance et dans tout ce qui arrive, il y a quelque chose de beau parce que ça fait vibrer quelque chose qui n'aurait jamais vibré si ça n'avait pas été le cas. On est marqué à vie, il n'y a pas un jour où on n'y pense pas. Rien ne fait plus mal que la trahison. Et c'est pas n'importe quelle trahison parce que c'est une confiance dans le monde. Et c'est pas un cas, c'est structurel. Donnez-nous des affaires où c'est pas le cas. Des affaires de violence policière où c'est pas le cas. Et en fait, on comprend que ce qui n'est pas normal, c'est la norme, quoi. Moi, j'ai vécu pendant 20 ans dans la même chambre que mon frère. C'est la personne avec qui j'ai passé le plus de temps, avec lequel j'ai le plus échangé. 20 ans, je peux pas passer à autre chose. C'est pas un caprice. Et les gens nous disent ça, nous disent « Ouais, mais c'est le mec tourbe et tout, faut avancer. » Non, non, tu peux pas avancer. Tu peux pas avancer quand t'as une personne, en fait, qui a été supprimée, qui était importante à tes yeux, et que cette personne-là, surtout, et c'est ce qui fait le plus mal, elle n'est plus là pour se défendre. Elle a vu sa mort arriver, et il n'y avait personne pour l'aider. Et j'ai l'impression aussi que si je la laisse tomber, je laisserai tomber une deuxième fois. Et là, ce n'est pas la mort de la personne, c'est la mort aussi de ce que je suis.
Dans
cadre des 7 ans de la mort de Wissam, le comité Vérité et Justice pour Wissam organise un rassemblement le samedi 5 janvier 2019 à 13h12 sur Paris, à Châtelet, près de la Fontaine des Innocents. Si vous êtes dans le coin, passez-y.
Et on va maintenant en direction de la frontière franco-italienne, puisque jeudi 13 décembre dans la nuit, donc la semaine dernière, trois personnes ont été arrêtées par la police à Briançon, alors qu'elles portaient secours à des exilés par une température de moins 15 degrés. Parmi les cinq personnes secourues, quatre étaient des mineurs voyageant seuls. Deux des personnes qui secouraient les migrants et migrantes, appelés des maraudeurs, ont été convoquées en audition libre dès le lendemain, le vendredi 14 décembre, et la troisième était convoquée ce mercredi 19. Un peu plus tôt dans la journée du 13, les sept de Briançon avaient été condamnés par le tribunal de Gap à de lourdes peines. Ce jugement a soulevé l'indignation des militants, militantes, organisations qui œuvrent pour défendre les droits des personnes exilées. Tous et toutes dénoncent les poursuites contre les personnes solidaires accusées du délit de solidarité. Malgré ces condamnations et face à la situation d'urgence en montagne, les maraudeurs du Briançonnais ont annoncé qu'ils et elles continueraient à venir au secours des personnes exilées à leur arrivée sur le territoire en leur apportant thé, nourriture, chaussures ou autres vêtements chauds. Depuis, de nombreuses personnes se sont perdues en montagne et ont pu être secourues par des maraudeurs solidaires, alors que les conditions climatiques dans le Briançonnais sont extrêmes. Les personnes arrivent souvent en transit froid, en hypothermie, avec parfois des gelures et des blessures. Il est quand même important de redire que les maraudes permettent de sauver des vies mises en danger par des politiques migratoires répressives et meurtrières et qu'il est nécessaire de continuer à lutter pour mettre définitivement fin à la criminalisation des solidarités.
Actualité police. Pour terminer, enfin, à l'issue d'une journée de protestation des policiers, le ministère de l'Intérieur a accepté mercredi 19 décembre au soir de revaloriser leur salaire. Depuis le début de la semaine, le gouvernement cherchait à désamorcer un éventuel mouvement social dans la police. Donc, sous pression à la suite de quelques fermetures symboliques de commissariats dans quelques villes mercredi, le gouvernement est finalement allé plus loin que les revendications des syndicats policiers en concluant un accord de revalorisation salariale. 40 euros en plus dès janvier, puis l'augmentation des salaires sera ensuite graduelle et devrait aboutir au bout d'un an à une hausse en moyenne de 120 euros net par mois, donc beaucoup plus que les 300 euros de prime de fin d'année promis au départ, puisque là ça fait par an plus de 1600 euros. On peut donc dire qu'en un jour de grève, les flics ont plus gagné de thunes que les gilets jaunes en un mois de blocage et de manif. Quant à nous, la gauche, ben, ça fait longtemps qu'on n'a rien gagné. Peut-être si, la fin de l'aéroport, mais on s'est fait botter le cul quelques mois après. Voilà. Donc, confronté à sa première crise en interne depuis son arrivée il y a 2 mois à Beauvau, Christophe Castaner s'était voulu rassurant mardi en affirmant que les policiers n'étaient pas que des gilets jaunes, ou n'étaient même pas du tout des gilets jaunes, pardon, il n'a pas dit que, et qu'ils ne bloqueraient pas les commissariats parce que, je cite, « ils ont le sens du service public ».
Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet. Vive la République! Vive la France!
Mouvements sociaux.
Mais notre règne arrivera quand votre règne finira.
Et personne ne pourra étouffer une révolte. Tu as semé la graine de la haine, donc tu la récoltes. Les rebelles et les rebuts ont tous opté pour le boycott. Faisons en sorte que les aisés nous lèchent les...
Et alors, peut-être que la gauche n'a pas gagné grand-chose depuis longtemps, mais c'est vrai qu'un certain nombre de luttes syndicales les ces dernières années ont permis d'obtenir un certain nombre de choses, par exemple au parc Hayat à Vendôme et autour des mobilisations du coup syndicales quand même. Mais par contre, il y a une grosse mobilisation qui commence chez Vinci, et oui, pas forcément de la part des salariés de Vinci, mais plutôt de la part de la direction, parce que les gilets jaunes coûtent très très cher à Vinci. Et ouais, l'entreprise, donc Vinci, qui a fait ses comptes et a estimé ce dimanche à plusieurs dizaines de millions d'euros le montant des dégâts commis sur tout son réseau à cause des gilets jaunes. Enfin, ou grâce, tout dépend. Parce qu'en fait, pourquoi ? Près de 256 sites de Vinci, donc du coup plutôt des péages, ont été impactés quotidiennement par les actions des manifestants et manifestantes, causant des dégâts considérables aux équipements et aux infrastructures. C'est quoi ces dégâts considérables ? Et ben, c'est d'abord des mises à feu volontaires qui ont détruit 6 bâtiments d'exploitation, dont la direction régionale de Narbonne, mais qui ont détruit aussi 33 véhicules d'intervention et 15 échangeurs et plateformes de péage, et dégradé de nombreuses chaussées. Mais aussi, Vinci dénonce, en tout cas a subi des dizaines d'actes de vandalisme, dont des dégradations sur les caméras de sécurité, des glissières, des panneaux d'utilisation et des centaines de tonnes de détritus qui ont dû être enlevés autour des campements construits par les manifestants et les manifestantes. Et les dernières dégradations dataient de la nuit de samedi à dimanche, avec des incendies volontaires dans plusieurs zones de péage du sud, de Perpignan à Orange. Et il y a eu aussi de nombreuses dégradations autour du péage de Virsac en Gironde, qui a été complètement incendié par des gilets jaunes. Enfin, en tout cas, c'est ce que dit Vinci. Et alors, autour de Béziers, les gilets jaunes sont particulièrement remontés, certes contre Vinci, mais aussi contre la police. Alors, on va revenir un tout petit peu sur les événements autour de Béziers, même si, bien entendu, on n'en sait rien du tout des revendications spécifiques aux gilets jaunes de cet endroit-là. On ne sait pas du tout si les gilets jaunes sont d'accord avec leur maire, qui, on le rappelle, est Robert Ménard, plutôt le plus gros facho qui a jamais été inventé sur cette terre. C'est pas vrai, mais en tout cas, un gros facho, pardon, excusez-moi. Et du coup, et ouais, ça prend cher à Béziers, parce que depuis le samedi 24 novembre, du coup, il y a de nombreuses dégradations qui ont lieu sur ce secteur. Il y a eu par deux fois des transformateurs électriques qui ont été incendiés, privant les commerces aux alentours de courant, mais aussi de téléphone et d'internet, ce qui est quand même pas de bol. Et surtout parce que cette zone est une base stratégique d'Intermarché. Alors stratégique, le mot est peut-être pas forcément particulièrement bien choisi, mais en tout cas c'est l'endroit où la base d'Intermarché en fait permet de desservir 200 magasins de la région. Du coup, pour Intermarché, c'est plutôt stratégique et ça les fait plutôt chier, parce que du coup, bah, il y a un certain nombre de magasins qui n'ont pas pu être desservis en produits, et aussi du coup ça a impacté certes les clients, mais bon, voilà, mais ils ont dû aussi, les commerces d'Intermarché, du coup, mettre leurs salariés en congé. De la même façon, mercredi 13 décembre, les manifestants et manifestantes qui étaient sur le rond-point à côté de Béziers, qui s'appelle d'un nom très 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 poétique, je ne m'en rappelle plus, peut-être c'est Martignette, Martinguette, Martinounette, enfin un truc comme ça assez joli, et bah du coup les personnes trouvent que le nom est tellement joli qu'ils ont allumé un feu d'artifice au milieu du rond-point. Ça fait des photos pas mal, c'est assez rare, et pour une fois on rigole bien. Et dans la nuit, du coup, de mardi 18 à mercredi 19, et ben Vinci, encore une fois, a pris cher aux alentours de Béziers, parce que c'est le péage de Bessan qui a été incendié pour la seconde fois en 3 jours. Donc du coup, il commençait à être un peu saoulé, Vinci. Ils ont mandaté des experts pour vérifier la structure du bâtiment. Ça, à la rigueur, ça veut dire que ça a cramé quand même, plutôt. Désolé, Vinci. Mais dans la soirée, du coup, du 19 décembre, toujours sur ce magnifique rond-point dont j'ai oublié le nom, qui s'appelle Martinguette, qui est autour de Béziers, et qui est pas loin, du coup, de la barrière de péage qui a été incendiée, et ben les flics sont arrivés pour déloger les gilets jaunes, et les gilets jaunes étaient prêts parce qu'ils les ont accueillis à coups de cocktails molotov et de petites boules de petits écrous en quoi, bah des écrous en fer, quoi, finalement. Et par chance, c'est ça, c'est Midi Libre qui le dit, en tout cas, aucun blessé parmi les forces de l'ordre. Voilà. Mais du coup, les manifestants et les manifestantes avaient quand même bloqué, encore une fois, cette base stratégique d'Intermarché avec des pierres. Du coup, c'est pour ça que les flics sont arrivés, ils ont pris du coup 4 cocktails Molotov dans la gueule. Et du coup, mercredi matin, parce qu'il faut se dire que Béziers, c'est quand même un petit... Ah, la Méridienne, j'ai retrouvé, c'est le site de la Méridienne, ce rond-point. Et donc du coup, mercredi matin, des policiers de tout le département sont arrivés, parce qu'il faut se dire qu'il ne va pas y avoir non plus des milliers de flics à Béziers. Et sont arrivés pour venir du coup virer les gilets jaunes quand même. Et là, ils ont retrouvé un certain nombre de bouteilles remplies d'essence tout autour et un gros stock de projectiles. Mais du coup, les flics ont malheureusement ou heureusement réussi à virer les manifestants avant que tous ces cocktails Molotov aient pu être balancés. Il y en a juste un qui a été balancé à côté d'un réservoir de carburant d'un Smirnoff. Du coup, ça, c'était un petit peu dangereux. Mais finalement, tout s'est bien passé. Mais du coup, alors, on se rend compte que les gilets jaunes, il n'y a pas qu'à Paris, il n'y a pas que qu'à Paris, voilà, finalement, que c'est le Delbois. Il y a quand même pas mal d'endroits où les gilets jaunes se vénèrent, que ce soit contre Vinci, que ce soit contre Intermarché, ou que ce soit contre la police. Et du coup, bah, on dit bonne chance au rond-point de la Méridienne, au site stratégique d'Intermarché pour demain. Mais on imagine que ça va peut-être pas être fun.
Et il y a aussi, je crois, le rond-point de la Main Jaune, je crois que c'est à côté de Châtellerault, où il y avait une superbe main avec des voitures qui montaient dessus, une œuvre d'art du 1% culturel. Et cette œuvre d'art a brûlé. Et alors, Castaner, le ministre de l'Intérieur, a fait une déclaration formidable à l'Assemblée nationale. Il a comparé cet acte de vandalisme à celui des talibans qui s'en étaient pris à des monuments de Bouddha. Ambiance.
Rubrique nationale.
Je ne céderai rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes.
Il y a, d'un côté, un nouveau totalitarisme, et c'est nous.
C'est pourquoi j'ai décidé qu'en novembre prochain, nous sortirons de l'état de droit.
Imaginez. Oui.
Ah, je voulais dire que ceux qui ne veulent pas se...
Attends, je te dis, redis voir, ouais.
Avec un micro ouvert, voilà, que ceux qui ne veulent pas plier à l'obscurantisme des gilets jaunes peuvent aller à Châtellerault pour voir les vestiges de cette main jaune brûlée. Et bah, c'est super beau.
Ouais, voilà. C'était bien à Châtellerault.
Ouais, ouais. Ça vaut le coup d'aller à Châtellerault. Voilà.
Et en attendant, imaginez. Depuis la salle de commande d'un centre municipal de supervision, vous contrôlez toute votre ville. Sur un mur d'écran, vous suivez les individus au comportement anormal. Vous vérifiez les objets abandonnés. Vous repérez une altercation dans la rue, sans oublier de surveiller les tramways bondés, de garder un œil sur la crue de la rivière. Pas besoin de chercher au hasard, non. L'intelligence artificielle vous montre, parmi les images filmées par des centaines de caméras haute définition à vision nocturne, uniquement ce que vous devez voir. Mieux, vous recevez en direct les vidéos d'attroupements suspects ou de véhicules gênants envoyés depuis leur smartphone par vos administrés. Et un algorithme scanne les réseaux sociaux pour anticiper d'éventuels rassemblements à risque. D'un simple geste sur un terminal numérique mobile, audacieusement baptisé « tablette d'hypervision », vous ouvrez ou fermez les bornes d'accès au centre-ville piéton, vous maîtrisez l'entrée des bâtiments publics, vous modifiez les feux de circulation, vous intensifiez l'éclairage d'une rue. Un bruit suspect retentit. Les caméras de la zone se tournent d'elles-mêmes vers son origine. Sur la carte numérique de la ville, toutes les équipes, police, secours, services techniques sont géolocalisés. Vous pouvez les envoyer sur place au plus vite en cas de besoin. Ni fantasme, ni science-fiction, ces dispositifs sont très exactement ceux que des villes françaises, notamment Nîmes, Nice, Marseille, bientôt sans doute Lyon, commencent à expérimenter sous le nom générique de Safe City, la ville sûre, avatar en uniforme, de la Smart City, la ville hyper connectée. Et si vous voulez la suite de cette info, allez regarder l'article du Monde. En attendant, on enchaîne avec les infos internationales.
And now in the Canu Info.
Rubrique internationale. International.
Rubrique.
Cronaca internationale.
Fera.
Tu peux reprendre.
Oui, alors la rubrique internationale, disais-je, se fera ce soir sous le signe de l'extrême droite. Et ben ouais, c'est marrant. Hein. Du coup, on va vous parler de l'extrême droite en Espagne. On va aussi vous parler de l'extrême droite au Brésil. Voilà, pour foutre la pêche à tout le monde. Alors, du coup, pour parler du Brésil en premier lieu, Bolsonaro ne sera officiellement le chef du gouvernement qu'en janvier, mais dans les assemblées législatives, on parle déjà beaucoup du projet de loi Escola sem partido, ça veut dire école sans parti. Ce projet, il vise à lutter contre ce qui est nommé l'endoctrinement dans le système scolaire, qui diffuse des idéologies marxistes et immorales dans les écoles. Donc c'est un projet de loi qui existe depuis plusieurs années de façon marginale, mais que le nouveau gouvernement a remis au goût du jour et qui risque bien d'entrer en vigueur début 2019. En résumé, ce projet de loi veut bannir certaines matières et certaines thématiques jugées propices à l'endoctrinement idéologique. Il incite à ne pas proposer une vision déformée des faits historiques ou sociopolitiques et prévoit la suppression de l'éducation sexuelle. Rien d'étonnant de la part du ministre de l'Éducation nationale, Ricardo Vélez-Rodríguez, un conservateur de 75 ans, docteur en théologie et profondément nostalgique de la dictature militaire. Carlos Jordi, député à Brasilia, déclare « Aujourd'hui, dans les cours, on ne parle que de culture du viol, d'identité de genre, de féminisme, des questions qui dépassent très largement le rôle des professeurs. C'est un viol idéologique sur des êtres vulnérables. Mais nous allons interdire cet endoctrinement. » Du coup, cette loi, elle est en cours d'examen au Congrès, mais des répercussions directes ont déjà lieu sur les enseignants et les enseignantes. Notamment parce que les élèves ont été incités publiquement à plusieurs reprises et par plusieurs personnalités politiques à filmer et dénoncer leurs professeurs lorsque ceux-ci ont des propos qui sont jugés subjectifs et portant une idéologie marxiste ou immorale. De nombreux enseignants et enseignantes témoignent du fait qu'ils et elles censurent déjà dans les classes à cause de l'ambiance des délations qui est déjà palpable dans le pays. Donc, pardon, ils se censurent. Donc, c'est-à-dire que les enseignants, dès maintenant, commencent à dire qu'ils ne disent plus tout, ils n'expliquent plus tout aux jeunes, parce qu'en fait, il y a déjà une espèce d'ambiance de délation très importante. Notamment, certains enseignants et enseignantes témoignent du fait qu'ils ont été intimidés par des forces de l'ordre lorsque les forces de l'ordre avaient été prévenus qu'ils avaient tenu certains propos qui font partie des programmes depuis des années, qui sont en fait des cours d'histoire dans une ligne qui a été acceptable pendant des années et qui relate simplement factuellement ce qui s'est passé, notamment du coup qui relate le coup d'état de 1964 et les réalités de la dictature militaire terrible qui s'en est suivie. Certains professeurs commencent déjà à faire l'impasse sur cette partie de l'histoire et certains professeurs de biologie commencent à ne plus décrire complètement comment se passe la reproduction humaine parce que des élèves ont déjà filmé justement ces profs en train de parler de tout ça et ces profs ont été intimidés par la police. Donc voilà, je rappelle que cette loi n'est pas encore passée. Donc on envoie tout notre courage aux militants et aux militantes brésiliens et brésiliennes qui essayent de se dépatouiller avec tout ça. Et maintenant, on va rejoindre du coup l'Espagne où aussi la lutte continue contre l'extrême droite.
Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Cuando
canta el gallo negro, le coq noir qui dans cette chanson incarne le franquisme, s'est remis à chanter. Le 2 décembre dernier ont lieu en Andalousie des élections régionales anticipées. Dans cette région traditionnellement à gauche et gouvernée depuis toujours par le Parti Socialiste, Vox, une formation d'extrême droite, a fait une entrée fracassante et inattendue au Parlement andalou. C'est la première fois depuis la mort de Franco qu'un parti d'extrême droite siège dans une instance régionale ou nationale. Ce résultat n'est pas un phénomène local, puisqu'à l'échelle nationale, l'extrême droite autrefois peu présente dans les rues et discrètement cachée dans les institutions se réveille. Récemment, ils ont su créer la polémique autour d'une décision visant à retirer la dépouille du dictateur Franco du mausolée dans lequel il se trouve. À Madrid, des habitants que nous avons rencontrés luttent contre Hogar Social, un centre culturel fasciste de version espagnole du bastion social des identitaires français.
Cuando canta el gallo negro.
Au vu de la vague réactionnaire qui agite actuellement l'Europe et le monde, ces nouvelles ne sont pas particulièrement surprenantes. Toutefois, la question de l'extrême droite dans l'État espagnol revêt un aspect particulier, car elle est très corrélée à deux points de tension non résolus dans la société. Premièrement, le franquisme, qui ne s'est pas terminé par une rupture franche en 1975, mais par une transition dans l'oubli, et deuxièmement par des questions d'identité territoriale et d'indépendantisme, d'un côté des volontés d'indépendance, et de l'autre la peur d'une atomisation du territoire. La récente crise catalane a montré que ce vieux débat dans la société espagnole est toujours vivace, et l'extrême droite sait bien s'en servir.
Qué desencanto.
L'entrée début décembre au Parlement andalou de Vox, formation d'extrême droite, a été une vraie surprise, comme en témoigne Carlos, politologue originaire d'Andalousie.
S'il y a un endroit où personne ne s'imaginait que l'ultra-droite ferait son entrée, c'était bien au Parlement andalou, et encore moins avec une telle force. Les sondages les plus pessimistes avaient estimé qu'ils auraient un ou deux députés, et il se passe au final que ce parti, qui n'avait aucune représentation nationale, ni dans aucun parlement régional, se retrouve avec 12 députés au Parlement andalou, région traditionnellement à gauche.
Le parti récolte en effet plus de 11% des voix et obtient 12 des 109 sièges du Parlement. C'est malheureusement un résultat énorme, d'autant plus que les voix de gauche dans leur ensemble régressent au profit du camp de droite. Les scores cumulés par Podemos et le Parti Socialiste ne leur permettent pas d'obtenir la majorité qu'ils détenaient jusque-là. Podemos, qui avait tenté de faire front large avec d'autres organisations du mouvement social dans un mouvement appelé Adelante Andalucía, a connu un résultat en baisse et décevant.
Ahí Susana Díaz, qui era la hasta ahora.
Susana Aira, présidente socialiste actuelle de la Chambre andalouse, a avancé les élections pour les déconnecter du contexte national. En effet, ce sont donc les premières élections qui ont lieu depuis le processus d'indépenditisme de la Catalogne qui a agité l'Espagne cette dernière année.
Les questions nationales ont en effet dominé lors de ces élections locales. Il y a donc fort à craindre que ce résultat représente la tendance politique de l'ensemble du pays. À l'échelle nationale, en effet, la question catalane est toujours d'actualité et oppose le gouvernement socialiste actuel, qui tente de ne pas attiser le conflit catalan, à une droite qui se monte féroce sur le sujet. Depuis la fin du franquisme en 1975, c'était le bipartisme gauche-droite qui régnait en Espagne. Ces dernières années, les forces se sont recomposées et sont apparues Podemos, formation de gauche radicale, et Ciudadanos, sorte de République en marche version espagnole. C'est d'ailleurs sous cette étiquette que Manuel Valls tente en ce moment de conquérir la mairie de Barcelone. L'extrême droite, autrefois noyée dans le Parti Populaire, la droite traditionnelle, semble bien vouloir être le cinquième pôle du jeu électoral avec Vox. Ce parti néo-franquiste est récent, il a été fondé en 2013 et il est dirigé par Santiago Abascal.
Si nous analysons le discours de Vox, nous avons la traditionnelle critique identitaire au sujet de l'islam, en dénonçant bien plus fortement l'immigration africaine que l'immigration latine-catholique qui menacerait l'identité espagnole. La peur qu'ils alimentent, c'est celle de la supposée islamisation de l'Europe. Ils restent toutefois suffisamment intelligents pour ne pas utiliser le drapeau franquiste. Et ils sont parvenus à ce que l'électeur de Vox n'ait pas honte de s'identifier à ce parti.
Il y a 7 ans en Espagne, le mouvement des indignés, appelé aussi 15 de mai, avait donné espoir au camp progressiste. Aujourd'hui, à part un mouvement féministe fort, le mouvement social est plus morose.
Vox, il faut le voir comme la normalisation de l'extrême droite européenne. Nous espérions en Espagne être épargnés par ce phénomène, notamment suite au mouvement du 15 mai, mais je crois que c'était une illusion. Nous nous sommes imaginés être plus progressistes que nous ne le sommes en réalité.
À l'échelle nationale, l'extrême droite parvient à se faire audible et influente sur plusieurs questions. Récemment, le gouvernement socialiste a décidé de faire déplacer la dépouille de Franco. Celle-ci se trouve en effet à une trentaine de kilomètres de Madrid dans un lieu appelé Valle de los Caídos. Ce monument, voulu par Franco pour rendre hommage, je cite, aux héros et martyrs des croisades contre les républicains. L'architecture du monument est particulièrement fasciste, et même si en 1958 les combattants républicains catholiques ont été admis dans la crypte, il ne peut être considéré comme un monument neutre. C'est pourquoi le gouvernement socialiste a souhaité en sortir Franco.
Différents groupuscules invisibles de défense du franquisme se sont réveillés et Vox a su particulièrement bien les unir.
Si l'apparition de l'extrême droite en tant que force propre est une nouveauté en Espagne, il faut toutefois remonter à la mort de Franco pour comprendre que le franquisme a pu rester dans les institutions, caché au sein du Parti populaire. En 1975, la monarchie parlementaire est rétablie, mais les franquistes ne sont pas pourchassés du pouvoir, car cette sortie n'a pas été le fruit d'un rapport de force gagnant.
À la mort du dictateur Franco, s'ouvre un processus qui vise à normaliser l'État au système économique européen. Cette sortie a été rendue possible grâce à un accord entre les élites du franquisme et les élites des partis antifranquistes. Parallèlement, il s'était un pacte d'oubli. On oublie toute la répression depuis la guerre civile. Et en échange, qu'on ne parle plus de ce qui s'est passé, on peut continuer sur le nouveau contrat de la démocratie. La conséquence, c'est une absence d'épuration et de conclusion historique sur toutes les conséquences de la dictature dans le pays. Il n'y a pas eu non plus de nettoyage chez les hauts fonctionnaires qui ont servi le régime et qui restèrent très présents dans l'appareil d'État.
Si la non-purge du franquisme reste un malaise en Espagne et explique en partie l'ascension de Vox, une autre tension dans l'État espagnol est également à prendre en compte. Les régions au fonctionnement relativement décentralisé, appelées communautés autonomes, font pour certaines vœux d'indépendantisation.
Historiquement, l'Espagne a toujours eu des grandes tensions par rapport à son fonctionnement territorial. Le modèle d'autonomie politique, c'est-à-dire d'autonomie politique pour les communautés autonomes, a très bien fonctionné pour pacifier les tensions lorsqu'une partie importante de la population catalane souhaite l'autonomie. Ça ravive les peurs historiques d'une partie de l'Espagne de la fragmentation du territoire. Ce fut un des principaux combats du franquisme que de réprimer les luttes d'indépendantisme. La droite a toujours été très partisan de cette vision. La gauche manque de clarté, mais globalement, elle est partisan de sortie démocratique à ces conflits, c'est-à-dire reconnaître un droit à l'autodétermination des territoires. De cette tension forte dans le pays qui oppose deux visions, Vox a su profiter du conflit catalan pour raviver la peur de la fragmentation en ayant pour programme de mettre fin aux communautés autonomes. En y allant plus durement que la droite traditionnelle, il a trouvé un public qui préfère l'original à la copie.
À Madrid, à trois pas du centre, les habitants luttent contre Hogar Social, le bastion social version espagnole. Après avoir été chassé en 2014 du quartier populaire de Tétouan, la vermine s'est réinstallée dans la capitale en 2017. La lutte pour fermer le lieu a repris. Comme à Lyon et ailleurs, c'est la vitrine propre. Derrière, ces fascistes s'adonnent aux ratonnades, comme en témoigne cet habitant engagé contre Hogar Social.
Ils sont dit.
Ouais.
Ils ont dit, on va donner des différentes façons d'aider à la population espagnole. Ou, si non espagnole, au moins européenne. Pas des immigrants, pas des personnes qui viennent d'Or, non, d'Afrique, Maghrébis, blablabla. Et ça c'est pas simple. Ils donnent beaucoup de fois des nourritures à familles qui ont besoin d'avoir des nourritures, mais seulement les Espagnols. Ça c'est un peu la facette publique. Après, derrière, il y a tout ça qu'on a parlé avant, que c'est la violence dans la rue.
À Madrid comme ailleurs, c'est donc le coq rouge, face du terre, le coq noir.